Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 juillet 2024, il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide de retour avec vous dans Le Monde Aujourd'hui, une émission que vous propose VOA Afrique depuis Washington. Voyons le sommaire. Au Mali, un proche du Premier ministre condamné à un an de prison. Tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, le troisième Américain charge le chef du commando. En France, le chef de l'État demande à son gouvernement de rester provisoirement au lendemain des législatives. L'OTAN en sommet à partir de demain dans la capitale américaine, plus de deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine. Au Mali, un proche du Premier ministre civil, Choguel Kokala Maïga, a été condamné aujourd'hui à un an de prison ferme après avoir signé un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. Boubacar Traoré avait été placé en détention le 28 mai après la publication d'un communiqué s'opposant fermement à un éventuel maintien des militaires au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Il était le signataire de ce document émanant de la faction du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Rester fidèle à Choguel Kokala Maïga. La publication passée pour susceptible de consommer la rupture entre le chef du gouvernement et les militaires qui l'ont nommé et lui laisse une capacité d'action minime. Il a endossé le contenu du communiqué incriminé, mais il demeure pour l'instant à la tête du gouvernement. La Guinée-Bissau élira un nouveau parlement le 24 novembre, un an après sa dissolution, a déclaré ce lundi le chef de l'État, Oumaro Sissoko Embalo. Ce sera la deuxième fois en un an et demi que les électeurs de ce pays, en butte à une instabilité chronique, éliront leurs députés. M. Embalo, président depuis 2020, a dissous le Parlement, alors dominé par l'opposition, en décembre 2023, après des événements qu'il a qualifiés de tentatives de coup d'État. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, nommé facilitateur par la CEDEAO hier à Abuja, a affirmé aujourd'hui la nécessité de l'apaisement et du dialogue avec le Burkina, le Mali et le Niger qui ont quitté le bloc ouest-africain. Nathalie Barge.
Le sommet de la CEDEAO a désigné le président sénégalais facilitateur des discussions avec les trois pays en collaboration avec son homologue togolais Fournia Simbé. Les dirigeants ouest-africains ont constaté le manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont annoncé la création d'une confédération des trois pays du Sahel après avoir quitté l'organisation régionale au début de l'année. Les efforts de rapprochement jusque-là sont restés vains. La CEDEAO a décidé de travailler à l'apaisement, a estimé le président sénégalais, ajoutant que la responsabilité de l'organisation est de travailler à rapprocher les positions et à les réconcilier. Il a souligné que l'article 91 du traité de la CEDEAO stipule que les membres restent tenus par leurs obligations pendant une période d'un an après avoir notifié leur retrait. M. Faye a dit espérer que d'ici la fin du délai de préavis, il y aura eu des discussions qui permettront de réconcilier les positions et de renforcer l'organisation. Le sommet de la CEDEAO a ordonné la préparation d'un plan d'urgence prospectif pour faire face à toutes les éventualités dans les relations avec les trois pays sahéliens.
Les députés gambiens ont approuvé ce lundi un rapport soutenant l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015. Avant un vote final prévu fin juillet sur l'abrogation éventuelle de cette interdiction, le Parlement est saisi d'une proposition de loi visant à lever l'interdiction des mutilations génitales féminines. Le débat divise profondément l'opinion et vaut une attention internationale à ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il deviendrait le premier pays au monde à annuler l'interdiction de telle mutilation si le Parlement adoptait le texte. D'après l'ONU, les députés ont voté massivement en mars dernier pour l'examen du texte par une commission parlementaire. Également dans l'actualité, à l'instar de ses deux compatriotes jugés comme lui à Kinshasa pour la présumée tentative de coup d'État du 19 mai, l'Américain Tyler Thompson, 22 ans, a rejeté ce lundi la responsabilité de leur aventure sur le chef présumé du commando mort durant l'opération. J'ai été forcé de porter une armes, a déclaré le jeune homme en tenue de prisonnier assis près d'une interprète devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Depuis le 7 juin, ce tribunal, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Kinshasa, juge 51 personnes, dont 3 Américains, pour ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Au petit matin du 19 mai dernier, plusieurs dizaines d'hommes avaient attaqué à Kinshasa le domicile du ministre sortant de l'économie, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale, avant d'investir le palais de la Nation, bâtiment abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Leur chef présumé, Christian Malanga, congolais de la diaspora vivant aux États-Unis, avait été tué par les forces de sécurité. Au Kenya, le chef d'une secte évangélique apocalyptique est jugé pour terrorisme. À partir de ce lundi, le procès concerne la mort de plus de 400 adeptes dans ce qui a été baptisé le massacre de Shakahola, une affaire qui a choqué le Kenya et la planète. Nanit Talani.
Le pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie a comparu devant un tribunal de Mombasa, grand port de l'océan Indien, aux côtés de 94 co-accusés. Arrêté en avril 2023, il est accusé d'avoir incité ses adeptes à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde prévue pour 2023. Les décès se sont étalés sur plusieurs années. Les restes de plus de 440 personnes ont été exhumés non loin de la ville côtière de Malindi dans le sud-est. Les autopsies des victimes ont établi que si la plupart sont mortes de faim, certaines, dont des enfants, ont été étranglées, battues ou étouffées. Le ministère public prévoit de faire venir à la barre quelques 90 témoins. L'accusation va présenter des preuves montrant que les accusés fonctionnaient comme un groupe extrémiste et comme une organisation criminelle opérant sous l'apparence d'une église dirigée par M. Mackenzie, selon le communiqué. 55 hommes et 40 femmes sont poursuivis pour meurtre, homicide involontaire, enlèvement, torture d'enfants et cruauté. Ils ont chacun plaidé non coupable au cours d'une audience en janvier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a refusé ce lundi la démission de son Premier ministre au lendemain de législatives qui ont porté la gauche en tête des forces politiques du pays. Yacouba Boudravgo.
Le président Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre Gabriel Attal, arrivé à l'Élysée pour proposer sa démission conformément à la tradition républicaine, de rester en fonction pour assurer la stabilité du pays. Après la surprise des législatives où la déferlante de l'extrême droite a été freinée, la France se cherche une majorité parlementaire avant de désigner une personnalité capable de rassembler et de diriger un gouvernement. Ni le nouveau Front populaire, parti de gauche qui a eu autour de 190 sièges, ni le camp présidentiel autour de 160 sièges, encore moins le Rassemblement national et ses alliés de l'extrême droite, plus de 140 sièges, n'ont obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature pour Matignon, a déclaré le patron du Parti socialiste Olivier Faure. La chef des écologistes Marine Tondelier a estimé pour sa part que le chef de l'État devrait appeler le nouveau Front populaire à lui soumettre un nom. Cependant, l'alliance de gauche réunit des forces en désaccord sur de nombreux points entre la gauche radicale de la France insoumise, les socialistes, les communistes et les écologistes.
Le président américain Joe Biden entame une nouvelle semaine de bataille pour sa survie politique sous les yeux de l'Amérique, mais aussi des pays alliés chez les États-Unis, attendus ici à Washington pour un sommet de l'OTAN. Gabi Dorsil.
Joe Biden accueille de mardi à jeudi à Washington un sommet de l'OTAN pour le 75e anniversaire de l'Alliance Atlantique et plus de 2 ans après l'invasion russe de l'Ukraine. C'est sous son impulsion que l'OTAN s'est mobilisée pour soutenir l'Ukraine en se renforçant au passage avec 2 nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Le sommet va aussi mettre en avant que cette année, 23 des 32 pays de l'Alliance vont consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Le président américain a prévu de donner jeudi une conférence de presse en solo, alors qu'il a toujours boudé ce genre d'exercice depuis son arrivée à la Maison-Blanche. L'ombre de l'ancien président Donald Trump, dont l'éventuel retour inquiète certains membres, va planer sur la rencontre. Les alliés ont confié les rênes de l'organisation à l'ancien premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui va remplacer Jens Stoltenberg en octobre. Il est surnommé l'homme qui murmure à l'oreille de Trump. car il a joué un rôle important pour calmer M. Trump lors d'un sommet de l'OTAN en 2018 à Bruxelles. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vedette de cette réunion, est en route pour Washington, mais ne va pas participer au sommet.
Après avoir traversé les Caraïbes, l'ouragan Beryl touche le Texas ce lundi avec de fortes pluies entraînant la mort d'au moins une personne dans le sud des États-Unis. Beryl a déjà fait au moins 8 morts. En comptant les 7 décès recensés dans les Caraïbes et au Venezuela, au Texas, plus de 2 millions de foyers étaient privés d'électricité ce matin et des habitants ont été évacués. Nous devons prendre Beryl très très au sérieux, avait averti plus tôt John Whitmer, le maire de Houston. La Maison-Blanche a indiqué hier qu'elle surveillait la situation. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les files d'attente pour l'essence qui se sont formées dans la capitale du Nigeria, Abuja, la semaine dernière étaient dues à des perturbations dans les transferts de carburant offshore et à des inondations qui ont entravé les livraisons, a déclaré ce lundi la Compagnie pétrolière nationale. Selon la ANPC, les orages ont entravé les transferts d'essence entre les grands navires et les petits bateaux de distribution et les inondations ont limité les livraisons des dépôts côtiers à la capitale. On ne sait pas quand les opérations normales reprendront. Le FMI a approuvé un financement de 786 millions de dollars pour la lutte contre le changement climatique en Tanzanie, tout en achevant l'examen d'un décaissement distinct de 150 millions de dollars pour l'appui budgétaire. L'économie tanzanienne repose sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière, assure la Banque mondiale. Pour terminer, l'Égypte s'attend à recevoir 6 milliards de dollars sur 3 ans de la Banque mondiale pour faire face à sa crise des devises étrangères et des déficits budgétaires, ainsi que des balances des paiements béants. D'après la Banque mondiale, 3 milliards de dollars seront destinés aux programmes gouvernementaux et 3 milliards au secteur privé, notamment dans des programmes sur le climat et les petites et moyennes entreprises.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les supporters des Aigles du Mali craignent que les éliminatoires de la CAN ne se fassent sur fond de crise.
Et oui, ce parce que depuis le renvoi du sélectionneur Eric Sékou Chèle, la Fédération malienne de football ne s'est pas encore prononcée sur le recrutement d'un nouveau sélectionneur, alors que les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sont programmées pour septembre prochain, après le tirage au sort le 4 juillet dernier. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Même si Alou Badra Diallo Di Conti, adjoint à l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, est de fait celui qui doit assurer l'intérim, le comité exécutif de la Fédération malienne de football n'a pas encore communiqué sur la question. En attendant, c'est l'un des sujets qui alimente les causeries du public sportif malien. Un public qui s'impatiente car veut être édifié sur le recrutement des nouveaux entraîneurs. Pour l'instant, Alou Badra Diallo, non moins sélectionneur principal des U20, est concentré sur les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024 qui s'ouvrent le 26 juillet prochain, compétition à laquelle le Mali y prendra part. La FEMAFOOT attendra-t-elle la fin des JO pour se prononcer? Attendons de voir. Ce qu'on craint, c'est que les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ne se fassent pas sur fond de crise. L'on se rappelle, le 13 juin dernier, la FEMAFOOT a mis fin au contrat d'Eric Sékou Chèle. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 27 juin 2024, le capitaine des Aigles, Hamari Traoré, a été suspendu à titre conservatoire par la fédération pour avoir critiqué la gestion du football malien. Des questions qui divisent au sein de l'équipe nationale. Notons enfin qu'au compte des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025, le Mali hérite du groupe I avec le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
En basketball, seul le Soudan du Sud va représenter l'Afrique au tournoi masculin des prochains Jeux Olympiques.
Les Sud-Soudanais le doivent à leur performance lors du dernier mondial qui a eu lieu au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Le Cameroun, qui était à deux matchs de valider son ticket, a été défait hier 72-59 par la Lettonie. En demi-finale du tournoi de qualification, le Soudan du Sud a été l'équipe africaine la mieux classée lors du dernier mondial et a donc arraché une place pour ces Jeux Olympiques de Paris. Pendant la phase qualificative au mondial, les Sud-Soudanais ont été énormes, cumulant 11 victoires et aucune défaite. Ce sera la première fois que la nation la plus jeune du monde participe aux JO en basketball. La Fédération Sud-Soudanaise de basket est dirigée par un ancien de la NBA, Luol Deng. Le Soudan du Sud partage le groupe C avec Porto Rico, la Serbie de Nikola Jokic, la star de Denver, mais aussi et surtout avec les États-Unis et leur star conduite par LeBron James à ces JO.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce lundi 8 juillet 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunie en sommet hier au Nigeria, a prévenu que la région risquait la désintégration après la création par les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la Confédération des États sahéliens. Les trois pays l'ont annoncé samedi à Niamey lors de leur premier sommet, tenu comme un défi la veille de celui de la CEDEAO, après leur décision plus tôt cette année de quitter l'organisation ouest-africaine. D'Abuja, la capitale nigériane, le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet à Abuja ont pris acte de la décision prise la veille à Niamey portant création de la Confédération des États du Sahel. Pour le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, ce divorce pourrait avoir des conséquences si les trois pays ne reviennent pas sur leur décision.
Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté des mouvements et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements.
Le financement des projets économiques d'une valeur de plus de 500 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali et au Niger pourrait également être arrêté ou suspendu. Le président nigérian Bola Tinubu a souligné la nécessité de nouveaux partenariats pour surmonter les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels la région ouest-africaine est confrontée.
We are aware of the enormous...
Nous sommes conscients des énormes défis, notamment les activités terroristes et de l'extrémisme violent qui menacent de se propager de la région du Sahel vers les États côtiers, en particulier ceux qui ont été témoins de changements de gouvernement anticonstitutionnels.
Présent à Abuja, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité a exprimé le soutien de son organisation à la CEDEAO, Bankole Adeoye.
The African Union is indeed very proud of ECOWAS.
L'Union africaine est très fière de la CEDEAO. Nous plaidons pour une communauté unie, nous plaidons et nous soutenons pleinement l'unité de la CEDEAO. Le retrait de trois pays est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une CEDEAO.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été nommé médiateur entre la CEDEAO et les dirigeants des trois pays du Sahel qui se retirent du bloc économique. Les références de M. Faye ont été présentées comme possédant la capacité de servir des facilitateurs dans une mission qui devrait être confrontée à des défis importants en raison des tensions régionales. L'un de ses mandats est de faciliter le dialogue entre le bloc et les voisins du Sahel pour tenter de les ramener au sein de l'organisation sous-régionale. Samedi, les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont transformé leur alliance en une confédération. Et leur action constitue une menace majeure pour la stabilité du bloc régional ouest-africain. Le président nigérian Ahmed Bola Tinubu a été reconduit à la tête de la CEDEAO. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le grand jour de l'extrême droite n'est pas encore arrivé en France. Contre toute attente, le nouveau Front populaire a créé la surprise ce dimanche en devenant le premier parti de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen occupe finalement la troisième place derrière la coalition présidentielle. Le barrage républicain contre l'extrême droite a donc été suivi. Pour une analyse, John Linden a joint la politologue Anne-Charlène Bézina, maîtresse de conférence en droit public à Paris.
On en est arrivé là par ce qu'on appelle en France le front républicain, c'est-à-dire que les partis qui sont hostiles aux idées du Rassemblement national, eh bien, se sont coalisés en quelque sorte. Il y a eu des désistements des candidats qui auraient pu être troisième pour justement empêcher en quelque sorte une victoire de majorité absolue de ce parti. Et finalement, il s'est passé quelque chose d'inédit dans toute l'histoire de notre 5e République. Eh bien, on a inversé les résultats avec ce front républicain. Les électeurs ont vraiment voté en masse contre ce parti. Les voix se sont très bien reportées et il y a eu en fait un effet de masse contre les idées de ce parti. Donc voilà ce qu'il y a vraiment expliqué qu'on puisse changer l'issue du premier au deuxième tour. Et puis on a aussi une manière de voter à l'Assemblée nationale qui est différente par rapport à des systèmes où on a de la représentation proportionnelle en Europe, par exemple en Allemagne ou en Italie, où nous, notre mode de scrutin va très vite déformer un peu. Les gagnants gagnent plus et c'est comme ça qu'on en arrive à ce jeu des trois blocs que nous avons aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Ça va être sûrement difficile de gouverner sans faire des coalitions parce qu'on a trois grands blocs qui se font face et un gagnant qui est la gauche, mais qui aura du mal à ne pas être renversé par ses opposants.
Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un nouveau gouvernement. Comment peuvent s'opérer les négociations? Emmanuel Macron a déjà refusé ce lundi la démission de Gabriel Attal.
Oui, alors un nouveau gouvernement, il y aura forcément. Mais il a refusé la démission de Gabriel Attal, peut-être parce que le parti gagnant de la gauche n'est pas encore tout à fait prêt. Donc j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans une période de transition, mais immanquablement, il y aura un nouveau gouvernement parce que c'est important. Les nationales, dans le régime parlementaire que nous avons, reconnaissent la légitimité du gouvernement. Sinon, elle le renversera.
Et quelles pourraient être justement les priorités du prochain gouvernement ?
Elle risque d'être très difficile à négocier parce que la gauche a un programme qui économiquement ne met pas du tout d'accord le reste de l'Assemblée nationale. Donc si nous avons un gouvernement de gauche, il y a fort à craindre que l'instabilité de l'Assemblée nationale fasse qu'il puisse tout à fait ne pas durer très longtemps. Donc on ne sait pas vraiment quelles seront les priorités du prochain gouvernement parce que il faudra arriver à essayer d'éviter d'être renversé. Ça sera ça le plus difficile.
La politologue Anne-Charlène Bézina, maîtresse de conférence en droit public à Paris. Le nouveau Front populaire a donc défait le Rassemblement national lors de ce second tour des législatives en France. Le RN a obtenu moins de sièges que ce que laissaient présager ses scores au soir du premier tour. L'issue du scrutin était très attendue sur le continent africain, avec une crainte élevée de l'arrivée à Matignon du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. À Libreville, quelques observateurs célèbrent une autre victoire, celle de la franco-gabonaise Danielle Obono, réélue au premier tour sous la bannière de la France insoumise. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé par Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le Rassemblement national avait puisé donc ses réserves de voix et que les Français, ne voulant plus porter donc le parti d'Emmanuel Macron donc au pouvoir, devraient nécessairement voter pour le nouveau Front populaire qui, lui, a l'avantage d'avoir des thèmes qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent.
Mais qu'est-ce que ça va changer dans les rapports France-Gabon, par exemple?
Oui, bon, en tout cas, nous, du côté du Gabon, nous suivons très bien cette élection, ce d'autant que nous avons une Gabonaise, une binationale, Danielle Obono, qui a été réélue donc députée. Et en ce qui concerne donc les relations entre la France et le Gabon, en réalité, on va dire les gouvernements de gauche notamment, n'ont pas de problème avec les anciennes colonies. Et je pense que les rapports France-Gabon devaient être au beau fixe.
On devrait avoir des rapports plus équilibrés dans les rapports de la France et de l'Afrique, parce que bon, aujourd'hui, ces rapports ont toujours été en faveur de la France. Et il est évident que le monde changeant aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Il faut qu'il y ait une plus grande place réservée à l'Afrique dans le concert des nations et faire en sorte que les Africains puissent effectivement bénéficier des richesses de leur sol et qu'il y ait en France une politique qui soit mise en place pour que l'Afrique puisse émerger.
Alors, est-ce que vous êtes surpris de la défaite du Rassemblement national que tout le monde voyait aux portes du pouvoir ?
Non, je ne suis pas surpris. Moi, je savais très bien qu'ils allaient être battus. Déjà hier, quand on a vu les élections dans les métropoles et on a vu comment est-ce qu'ils ont été battus là-bas, moi, j'étais certain qu'ils allaient être battus parce que les idées qu'ils défendent sont des idées qui doivent être mises à la poubelle pour toujours.
Même une opportunité pour l'Afrique et les Africains qu'il y ait en France des gouvernants qui, s'ils mettaient en pratique leurs propos de rupture avec tout ce qui a été dénoncé jusqu'alors de France-Afrique, cela nous obligerait, nous Africains, à prendre nos responsabilités. Cela obligerait les dirigeants africains un peu timorés à clarifier par ailleurs leurs relations avec la France. Pour nous, c'est une opportunité. Nous n'avons rien à craindre. Les Français défendent leurs intérêts. C'est à nous, par ailleurs, de défendre les nôtres. Pourquoi en aurais-je peur ? Pas du tout.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Les jours qui viennent pourraient être déterminants pour la candidature du président américain Joe Biden au scrutin présidentiel de novembre, car des voix s'élèvent pour qu'il quitte la course à la Maison-Blanche en raison des inquiétudes sur son âge et sa capacité à diriger. Cependant, il a bénéficié du soutien de nombre de ses pairs, même s'ils reconnaissent les craintes des électeurs démocrates. Le reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA est relaté par Nani Talani.
Le président américain Joe Biden s'est adressé à une foule de partisans dimanche lors d'un service religieux à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Il a parlé de ses réalisations alors que les inquiétudes sur son âge et sa capacité à diriger ne cessent de croître. Suite à sa piètre performance lors du récent débat, le président n'a fait que redoubler sa détermination à rester dans la course à la présidence. Il a clairement exprimé sa position lors d'une interview exclusive avec George Stephanopoulos, présentateur d'ABC News, vendredi.
Je ne pense pas que quelqu'un soit plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette course.
Joe Biden bénéficie toujours d'un large soutien de ses pairs, mais les inquiétudes des électeurs grandissent et ont été reconnues par le sénateur démocrate Chris Murphy, qui a participé dimanche à l'émission « L'État de l'Union » de CNN.
Il ne s'agit pas de questions sur son caractère ou sa décence, ni sur les personnes dont il se soucie, pour lesquelles il se bat, mais des questions sur le fait de savoir s'il s'agit toujours de l'ancien Joe Biden.
La décision de quitter ou non la course à la présidence appartient à Joe Biden, a déclaré le représentant démocrate Adam Schiff lors de l'émission « Meet the Press » de la chaîne NBC, soulignant qu'elle sera déterminante pour l'élection générale.
Joe Biden va devoir se demander dans son propre intérêt et pour son propre héritage s'il peut battre Donald Trump. Est-il le meilleur pour battre Donald Trump? Mais aussi l'impact profond que cette décision, peut-être la plus importante de sa présidence, aura sur la Chambre, sur le Sénat, sur l'avenir du pays.
Samedi, Donald Trump s'est rendu sur sa plateforme Truth Social et a écrit, je cite, Joe Biden devrait ignorer ses nombreux détracteurs et aller de l'avant avec empressement et force, avec sa campagne puissante et de grande envergure. Fin de citation. Alors que les gros titres se sont concentrés sur Biden, Le choix du vice-président de Trump pourrait voler la vedette s'il est annoncé cette semaine. Le sénateur républicain Vance fait partie des candidats envisagés pour le poste. Il a été interviewé dimanche sur NBC.
Il y a beaucoup de bonnes personnes parmi lesquelles il pourrait choisir. Ce sont les politiques qui ont fonctionné et le style de leadership qui a fonctionné pour le peuple américain. Je pense que nous devons ramener cela à la Maison-Blanche.
L'attention du président Joe Biden se tournera vers le sommet de l'OTAN qu'il accueille à Washington à partir de ce mardi, tandis que Donald Trump est attendu à Doral en Floride et à Butler en Pennsylvanie cette semaine.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 juillet 2024, prend fin ici. Un grand merci à toutes nos équipes de la rédaction et de la production. Et bien évidemment, chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce lundi. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Tous mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir et restez à l'écoute. Merci.